Donc on est réunis ce soir, donc on accueille Jean Palais, dont je remercie d'être présent. Donc depuis quelques mois, depuis la présidentielle, on a assisté face à l'inaction climatique de notre gouvernement, on a assisté à de plus en plus d'actions militantes pour sensibiliser autour de l'écologie et en parallèle, aussi parfois une légitimation de la violence dans ces actions-là. Et donc, on tenait, nous, Génération Écologie, pour qui la non-violence est une valeur cardinale de notre mouvement, à rappeler notre engagement pour la non-violence et rappeler que les modes d'action violents sont inefficaces. Et donc, pour cela, on a demandé à Jean, que je remercie d'être présent, d'intervenir. Voilà, pour nous faire un rappel sur les modes d'action non violents, sur l'historique de la désobéissance civile, sur pourquoi est-ce que la violence est inefficace et la non-violence est un moyen beaucoup plus efficace d'intervenir et de lutter contre l'inaction climatique. Voilà, donc Jean qui est formateur à l'action non violente, c'est pour ça qu'on l'a sollicité. Il est cofondateur d'Alternatiba et d'Action non violente COP21, il est militant de l'association basque Bizi, qui veut dire vivre, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui promeut la justice environnementale et la justice sociale. Voilà, il a participé au lancement des camps climat, qui ont un rôle de formation, à la fois sur les modes d'action non violents, mais aussi, de sensibilisation aux enjeux, écologiques. Et à la communication non violente. Voilà. Et donc, il a notamment participé à l'animation de campagnes de désobéissance civile. Donc, les faucheurs et faucheuses de chaises et les décrocheurs et décrocheuses de portraits. Donc, ce soir, je vais laisser la parole à Jean qui va voilà, nous faire ses rappels historiques et puis aussi nous raconter comment est-ce que les principes théoriques, on les applique dans le cadre de l'engagement et du militantisme pour la justice sociale et environnementale et contre l'inaction climatique. Donc, je pense que tu as prévu à peu près une demi-heure, hein, si je ne dis pas de bêtises, et puis on pourra continuer avec des questions.
Merci beaucoup, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de présenter un ensemble de notions, à la fois sur la non-violence et puis dans une seconde partie sur la désobéissance civile, qui me semble nécessaire pour bien cadrer ces débats. C'est des débats très récurrents dans les milieux militants et qui ne sont pas si évidents. Dans lesquels c'est pas si évident d'argumenter parce que souvent on a des notions pas toujours très bien définies. Très rapidement, commençons par comment définir la violence. Alors, très souvent, on nous rétorque que c'est subjectif. Et moi, ça m'est arrivé assez fréquemment d'être confronté à une rhétorique biaisée, mais qui en fait, dans un débat justement, embrouille un peu les choses, qui est de dire puisque la violence c'est subjectif, chacun en fait va percevoir à sa manière ce qui est violent ou ce qui n'est pas violent, puisque c'est subjectif, alors tout est violent, alors rien n'est violent. En creux, ce qui veut dire aussi que la non-violence ne signifie plus rien, et donc tout se vaut. Et ça, c'est une rhétorique qui vient en général justifier une certaine approche stratégique qui cherche à mélanger des actions violentes avec des actions non violentes. Ou des actions en tout cas perçues comme violentes et des actions non violentes. Moi, dans les mouvements dans lesquels je milite, je plaide au contraire pour une stratégie 100% non violente, parce qu'effectivement, dès lors qu'on mélange des actions violentes avec des actions non violentes, on n'est plus dans une stratégie non violente. Mais pour ça, et pour bien la comprendre, il faut distinguer donc différentes notions. Alors la violence, c'est vrai que c'est subjectif. On pourrait dire la même chose de la justice. Du bien, du beau. En fait, évidemment, on est sur des notions de morale. Donc, il faut accepter le fait qu'on n'ait pas de définition définitive, mais ça ne doit pas nous empêcher quand même de réfléchir et d'utiliser un certain nombre de définitions qui servent de point de départ. Alors, j'en propose une. La violence, entendue comme vis-à-vis des êtres vivants, je propose que ce soit ce qui fait souffrir, ce qui meurtrit, ce qui abîme les personnes, les êtres vivants. On n'est pas obligé d'être tous et toutes d'accord là-dessus, mais au moins, comme ça, pour la suite, vous pouvez situer ce dont je parle. Ensuite, il y a une certaine catégorisation qui me semble intéressante, parce que là, on va parler de la violence, et en fait surtout de la non-violence, hein, je vais surtout parler de la non-violence, dans le champ de l'action politique, et donc sur des sujets politiques. Ce n'est pas tout à fait les mêmes débats que sur d'autres problématiques sociales. Cette catégorisation qui est intéressante, c'est celle qui distingue la violence physique, frapper quelqu'un, c'est la violence physique, envoyer un missile sur un immeuble habité, c'est de la violence physique. Donc ça, c'est la plus évidente à comprendre. Mais il y a aussi la violence psychologique, on en entend de plus en plus parler. On n'est pas obligé de frapper physiquement quelqu'un pour être violent. La dernière catégorie de violence à laquelle on ne pense pas forcément et qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la violence structurelle. Par exemple, quelqu'un qui est sans domicile fixe, qui souffre du froid, ou qui est dans un logement passoire thermique, qui souffre du froid, qui ne peut pas manger à sa faim, bah, cette personne, en fait, est victime de violence, même si on ne peut pas attribuer la responsabilité de cette violence directement à une seule personne. Ce n'est pas lié à une action précise de quelqu'un qui lui crée cette situation, ce sont des effets de système. Or, ils sont extrêmement importants dans notre société. Il y a énormément de choses qui dépendent des structures, et donc la violence aussi. Techniquement, ça marche bien, parce que là, j'affiche pas le chat, donc si jamais il y a un problème, quelqu'un allume son micro et me le dit, hein, d'accord ? Vous êtes toujours là ?
Tout va bien, oui, il n'y a pas de problème.
Merci. Parfait. Alors, je poursuis. Comment définir la non-violence ? C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Très souvent, alors la non-violence, en fait, est quelque chose d'assez mal compris en général, y compris dans les milieux militants et d'une manière générale par le grand public, et qui est quand même victime de beaucoup de simplifications, de caricatures. Et là, ce soir, je vais justement partir d'idées reçues fausses qu'on a l'habitude d'entendre sur la non-violence pour expliquer, en fait, ce qu'elle n'est pas et du coup pour expliquer ce qu'elle est. Finalement, en fait, c'est assez pratique de partir de là. Alors, première chose, la non-violence n'est pas l'activité. C'est d'abord une manière d'agir. En tout cas, l'action non-violente, hein, ce qui nous intéresse, l'action politique non-violente. Alors, je passe quelques exemples très rapidement. Là, on a une action de Greenpeace qui jette depuis un de ses navires des blocs de granit dans une zone qu'il demande à être transformée en réserve marine. Et ces blocs de granit, en fait, empêchent le passage des filets de pêche industrielle. Donc là, on est dans une action directe non violente. On intervient directement sur la situation qu'on veut résoudre. On intervient en intervenant nous directement. Et on voit bien que c'est une action et que ce n'est pas une non-action. Ici, c'est le mouvement BC au Pays Basque qui, deux jours après qu'éclate un scandale sur l'évasion fiscale qui épingle le rôle de la HSBC en 2015, on entre dans une agence HSBC, on leur réquisitionne des fauteuils et on repart avec en leur disant qu'on leur rendra les fauteuils quand ils auront rendu l'argent. Donc là aussi, on voit bien qu'on intervient et on agit. Là, c'est une photo d'un blocage d'un sommet pétrolier qui était organisé à Pau. Qui est
là, pourquoi il y a du son ?
Vous m'entendez toujours ?
Oui, c'est bon.
OK. Sommet pétrolier organisé à Pau pour perfectionner les techniques de forage en mer profonde et ultra profonde. Et donc, on était venu à plusieurs centaines bloquer ce sommet et empêcher les avancées des compagnies pétrolières, gazières, extractivistes. Alors, cet exemple, il est assez intéressant parce que, donc ça, c'était le mouvement Action non violente COP21 en 2016. On a poussé la non-violence jusqu'à une limite que beaucoup ne pensaient pas forcément possible. C'est-à-dire qu'on s'est équipé avec des boucliers en mousse parce que c'était une action annoncée à l'avance. Donc, en fait, le site était encerclé par des forces de l'ordre et des barrières de sécurité. Mais du coup, on savait qu'ils allaient réagir. Donc, on s'était équipé avec des boucliers en mousse. On a renversé les barrières et on a repoussé les forces de l'ordre physiquement en les poussant. Alors, là, déjà, sur un niveau d'action revendiqué comme non-violente par nous, et considérée comme non-violente par nous, on peut déjà admettre que pour certaines personnes, ça aille déjà trop loin par rapport à la conception qui pourrait se faire de l'action non-violente. Pour nous, non, parce qu'on repousse, il y a un contact physique, on repousse les forces de l'ordre, mais bon, on a des boucliers en mousse, donc on ne prend pas le risque de les blesser. Donc, pour nous, c'était non-violent, même si bah, là, il y a une confrontation physique évidente. Alors, en retour, par contre, évidemment, les forces de l'ordre ont fait usage de matraques, de gaz lacrymogène, de clés, etc. Et ont pu être violentes. Il y a le registre de l'humour qui est très souvent utilisé dans l'action non-violente. Là, c'est une action d'ANV COP21 encore, qui consiste à dénoncer les financements de la Société Générale dans plein de projets climaticides. Et donc, on disait que cette banque était très sale. Et donc, au sens figuré, au sens propre, on est venu nettoyer les agences de Société Générale, évidemment pour dire qu'il fallait nettoyer les financements sales de ces investissements. Donc là aussi, on est sur une intervention. C'est une action directe, humoristique. Quelques exemples. Alors là, j'ai pris, pour commencer, des exemples d'actions directes non violentes. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais je pense que pour faire très vite, on peut situer le champ de l'action non violente en quatre grandes catégories. Les actions directes non violentes. Tout ce qui est manifestation, les rassemblements, les marches, ce genre de format-là. Tout ce qui concerne les alternatives, Gandhi appelait ça le programme constructif. Alors, le programme constructif, hein, l'idée, c'est de développer par nous-mêmes des solutions qu'on n'obtient pas encore du système à qui on les demande. Et tout ce qui relève de la non-coopération. La non-coopération, on va considérer que le système fonctionne parce qu'il repose sur notre participation volontaire ou un peu obligée, mais en tout cas, on fait tourner la machine et on participe au système. Et donc, à un moment, on peut s'organiser pour arrêter. Donc, c'est la grève, c'est le boycott, par exemple. J'en reparlerai tout à l'heure pour expliquer en quoi, justement, c'est intéressant par rapport à la bataille du climat. Je continue toujours dans cette définition en creux. La non-violence, ce n'est pas non plus la soumission. Ce n'est pas parce que le système peut être violent et dès lors qu'on choisit, nous, d'être non-violent, alors ce serait une forme de soumission. Non, la non-violence, c'est justement une manière de s'opposer, une manière de dire non, une manière de dire non à la logique de la violence et une manière de dire non à quelque chose qu'on trouve injuste et qu'on veut et contre lequel on veut lutter. La non-violence aussi, ce n'est pas un choix destiné à nous éviter de subir la répression. Ça peut aider parfois, surtout quand c'est des actions humoristiques. Là, ça peut désamorcer certaines formes de répression. Mais enfin, c'est quand même très fréquent que les activistes qui participent à des actions non violentes soient victimes de répressions violentes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par peur de la répression qu'on choisit la non-violence, et ce n'est pas avec le calcul qu'on échapperait à la répression. Ça, ce serait un mauvais calcul à faire parce qu'on peut y être exposé. En revanche, dans une stratégie non-violente, on cherche à pratiquer une forme d'aïkido politique, c'est-à-dire on cherche à faire en sorte que la répression se retourne contre le pouvoir qu'il exerce contre nous. Très souvent, en fait, par le jeu de l'opinion publique. C'est ça qui distingue, en fait, les bons rôles et les mauvais rôles. Et si on voit quelqu'un qui tape sur quelqu'un d'autre qui ne répond pas par la violence en retour, on a quand même plutôt tendance à considérer que la personne qui exagère et qui franchit les lignes rouges, c'est celle qui frappe. Alors que quand tout le monde se frappe l'un l'autre, évidemment, chacun a sa version de l'histoire pour dire qui a commencé et qui a raison de frapper. Donc la non-violence permet cette clarification-là. Et du coup, c'est très utile pour lutter contre la répression, parce que la répression, en fait, à part dans des régimes extrêmement brutaux, doit quand même reposer sur un minimum de consentement, un minimum d'adhésion d'une partie de l'opinion publique, c'est-à-dire que si la partie de l'opinion publique qui vote, qui est l'électorat du système en place, est d'accord avec le programme politique mené, il aura tendance à justifier plus facilement la répression qui est faite, surtout si en face, on est capable de criminaliser un mouvement. En étant non-violent, c'est beaucoup plus difficile d'être criminalisé, donc c'est beaucoup plus difficile de justifier la répression contre un mouvement, et donc même si on n'est pas tellement d'accord avec les revendications politiques d'un mouvement citoyen, dès lors qu'il agit de manière non-violente, c'est plus difficile d'accepter qu'il soit réprimé, même si on est d'accord sur le fond politique avec le pouvoir qui exerce la répression. Alors, j'ai montré plusieurs photos où on voit les mains brandies. C'est un symbole, je pense, qui n'a été décidé par personne, mais qu'on voit dans beaucoup d'époques de l'histoire, dans beaucoup de luttes sur tous les continents. Il me semble que de manière assez intuitive, c'est quelque chose qui signifie bien l'attitude non violente. Et moi, la manière dont je l'explique, c'est que quand on brandit les mains paumes ouvertes, on montre plusieurs choses. On montre qu'on est désarmé, mais pas seulement. On montre en fait qu'on s'oppose, qu'on s'interpose, et on montre aussi qu'on se montre. Je développerai plus tard, mais c'est très important dans une action non violente, le fait d'assumer l'action, et donc la plupart du temps de la mener à visage découvert. La violence n'est pas forcément le respect inconditionnel des biens matériels et de la propriété privée. Là, sur cette photo, on a l'exemple des faucheurs volontaires d'OGM. Leur mode d'action principal et fondateur de leur mouvement, c'est de détruire physiquement les cultures d'OGM en plein champ, au moment où elles se développaient en France à partir des années fin des années 90 et années 2000, notamment. Et c'est un mouvement qui se revendique non-violent. Et quand on rejoignait le mouvement des faucheurs volontaires, on signait une charte où c'était explicitement précisé que les actions étaient non-violentes. Là aussi, on est sur un point de débat et on est sur un point variable. Il y a des mouvements non-violents qui s'autorisent la dégradation ou la destruction matérielle, et il y a des mouvements non-violents qui ne se l'interdisent pas. Il y a des mouvements qui se l'interdisent et d'autres qui ne se l'interdisent pas. Ce n'est pas forcément pour des divergences de conception éthique et morale de la violence et de la non-violence. Ça peut être aussi simplement des choix tactiques et stratégiques. Parce que c'est vrai que dès que on pratique la dégradation ou la destruction matérielle, qu'on considère que ce soit violent ou pas, moi, par exemple, je considère que détruire un objet, ce n'est pas violent parce qu'un objet ne peut pas souffrir. Donc, selon ma définition, à moins de la violence, ce n'est pas violent. Mais d'un point de vue stratégique, je dois aussi considérer la manière dont ça va être traité médiatiquement. Et ce qu'on peut observer, c'est que là, on est sur un sujet sensible, et dès lors qu'on pratique la destruction ou la dégradation matérielle, c'est très facilement traité comme de la violence. On va dire que briser une vitrine, c'est violent. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une chose, mais il faut tenir compte de ce traitement médiatique. Donc, ça veut dire que dès lors qu'on s'attaque aux biens matériels, c'est d'autant plus important que la démarche non-violente soit claire. Et en général, c'est d'autant plus important que les actions soient menées à visage découvert et assumées. Voilà, mais ce n'est pas un interdit absolu. À ANV COP21, par exemple, on ne se l'interdit pas. La non-violence n'est pas le pacifisme. C'est deux approches différentes. Le pacifisme, c'est militer pour la paix. Alors, c'est vrai que c'est quand même plutôt proche, et on peut être les deux à la fois. Et quand on milite pour la paix, c'est compliqué d'être violent au nom de la paix. Donc, c'est sûr que militer pour la paix oblige quand même un peu à être non-violent. Mais c'est quand même pas la même chose. Parce que le pacifisme peut parfois être en contradiction avec la justice. Une paix sans justice, c'est pas quelque chose de satisfaisant, par exemple. Et donc la non-violence, c'est quand même autre chose que le pacifisme. Alors la non-violence n'est pas le pouvoir de la gentillesse ou de la politesse. Donc ça, c'est la caricature des bisounours. C'est-à-dire penser que la non-violence, c'est le choix stratégique de celles et ceux qui sont très naïfs et pensent qu'il suffirait de demander poliment les choses pour que les personnes répondent favorablement à nos revendications. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça marche, on le sait bien. Dès lors qu'il y a des divergences d'intérêts, il y a des conflits d'intérêts. Et à partir d'un rapport de force qui est nécessaire dans la lutte, et la non-violence permet d'exercer un rapport de force. Par contre, il est vrai que dans la non-violence, la notion de respect des personnes est fondamentale. Et donc, le respect des personnes que sont nos adversaires. Donc, on ne va pas attaquer les personnes, on va attaquer les actions, on va attaquer les idées, on va attaquer les rapports de domination. Voilà, mais il y a une différence. Et elle est importante dans la stratégie non violente parce que dans une stratégie non violente, on ne cherche pas seulement à exercer un rapport de force, on cherche aussi à faire bouger les consciences. Je développerai un tout petit peu après. La non violence n'est pas l'absence de force. Donc ça, c'est une confusion classique aussi qui vient du fait qu'on a tendance à réduire la force à la violence. Donc forcément, si on pense que la force c'est forcément la violence, alors la non-violence, c'est logiquement l'absence de force. Sauf que là, c'est une mauvaise conception de la force, il ne faut pas confondre la force et la violence. Et d'ailleurs, il y a d'autres sens de force, et on le voit dans la manière dont on l'utilise. On dit qu'on peut être forte politiquement, on peut parler de la force d'une idée, de la force d'organisation, de la force du nombre, de la force du mental, de la force de la persuasion. Donc en fait, la force, c'est pas que la violence. Sans compter que parfois la violence, c'est plutôt aussi parfois l'absence de force. Et alors dans une lutte, on peut exercer une force de contrainte sans violence. Bon, là, on le voit en ce moment, par exemple, quand on fait grève, on exerce une forme de contrainte. Et pourtant, on n'utilise pas la violence. Dans la stratégie non violente, on cherche à identifier où sont les sources du pouvoir et les piliers du pouvoir, et on cherche à impacter ces piliers du pouvoir. Et donc ça, la plupart du temps, quand on fait cet exercice d'analyse, on se rend compte que la plupart du temps, ce n'est pas l'action violente qui est la plus efficace. Et même souvent, elle peut être inefficace, voire contre-productive. Et donc, je crois que je l'ai dit, mais en fait, voilà. Alors là, je fais une première définition, une première proposition de définition de ce qu'est l'action non violente. On pourrait dire que c'est l'art de manier la force de contrainte et la force de persuasion sans que l'une ne se fasse au détriment de l'autre. Et ça, c'est caractéristique des luttes non violentes. On utilise un rapport de force, mais ça ne doit pas rompre le dialogue, ou en tout cas, ça ne doit pas le rompre définitivement. Et d'un autre côté, ouvrir un dialogue sans exercer de rapport de force, souvent c'est vain. Donc il y a une synthèse à trouver entre la force de persuasion et la force de contrainte dans l'action non violente. Pas un compromis, hein, d'ailleurs. C'est plutôt une synthèse. La non-violence n'est pas le refus du conflit. Et bien au contraire, très souvent, l'action non violente consiste à poser un conflit pour révéler une injustice. Montrer la divergence d'intérêts, désigner un adversaire, on a besoin de poser un conflit. Mais là aussi, il y a une confusion importante à ne pas faire, c'est que le conflit, ce n'est pas la même chose que la violence. En revanche, effectivement, un conflit peut facilement dégénérer en violence. Donc là, le but, c'est que dans une action non violente, on pose un conflit mais on cherche à le résoudre sans qu'il dégénère en violence. D'où le fait de ne pas répondre, de pas répondre nous-mêmes à la violence quand on vient à subir la violence. Sinon, là, c'est l'escalade de la violence. Et donc, ça nous amène à une deuxième définition possible de l'action non violente, l'art de poser un conflit, puis de le résoudre sans qu'il dégénère en violence. Aucune de ces définitions est vraiment complète, hein. En fait, je ne crois pas qu'il existe de définition de la non-violence courte, simple et consensuelle. Par contre, avec cette approche-là, on arrive à définir des aspects qui me semblent fondamentaux de la démarche non-violente. Et donc, mis bout à bout, on va arriver quand même à un cadre un peu complet, je pense. Alors, ça, c'est quatre notions qui sont importantes de creuser un minimum, surtout quand il s'agit de discussions qui mettent dans la balance la violence d'un côté, la non-violence de l'autre. C'est qu'il faut aussi parler de l'injustice et surtout de la colère. Donc, premièrement, il faut distinguer un acte violent qu'on peut juger condamnable ou pas, efficace ou pas, ou même contre-productif. Ça, c'est une chose. Et il faut distinguer la colère qui s'exprime facilement en violence, mais qui n'est pas la même chose. Et il faut encore distinguer la situation de violence structurelle ou la situation d'injustice qui conduit à la colère, qui peut conduire à la violence. Donc là, je ne cherche pas à justifier la violence. Mais en tout cas, pourquoi il faut distinguer ça? C'est que il ne s'agit pas de nier les situations d'injustice qui peuvent être réelles, ni la colère qu'elles génèrent, qui peut être légitime, ni même la violence sociale à laquelle cette colère peut conduire, qui peut être compréhensible. Mais ce qui nous intéresse, ce qui doit nous intéresser en tant que militants politiques, mais je dis militant politique au sens large, hein, partisan ou apartisan, c'est d'analyser les caractéristiques de la violence en tant que mode d'action politique. C'est une chose d'essayer de comprendre ce que la violence exprime, la colère qu'elle exprime, le sentiment d'injustice qui est ressenti par ceux qui le font. Bon, ça, c'est un travail qui est important à faire. Mais nous, en fait, qui cherchons des modes d'action, on doit l'analyser d'un point de vue stratégique. Et c'est là qu'on voit que souvent, la violence peut être à la fois compréhensible, ce qui ne veut pas dire en fait qu'on la juge, qu'on la pense efficace et recommandable. Et surtout, il est important de remarquer que à l'origine de l'action non violente se trouve aussi un sentiment d'injustice et de colère par rapport à une situation. D'une certaine manière, le point de départ de l'action violente et de l'action non violente très souvent peut être le même. Et donc ça, c'est intéressant de s'en rappeler. Lanza del Vasto, qui a été disciple de Gandhi et qui a fondé en France les communautés de l'Arche, en parlait comme la non-violence, comme de la conversion de la colère. Rajagopal, qui est un leader non-violent indien contemporain, en parle beaucoup aussi de la colère, comme une énergie à transformer en action positive. Et ça nous amène encore à une définition possible de l'action non violente, la conversion de la colère et d'un tempérament guerrier en action positive et efficace. Et ça rejoint un peu la question du bisounours. Effectivement, la non violence, ce n'est pas juste être gentil, être serein, être calme. L'action non violente en politique, c'est quelque chose d'offensif. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le champ de la lutte. Alors, la stratégie non violente pour relever le défi climatique. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi ce soir. Je reviens sur mes grandes catégories. Je commence en haut à droite. L'action directe non violente, la qualité qu'on va lui trouver, c'est que vu qu'on intervient directement à un endroit où se passe un problème, on a l'impression d'avoir prise sur les choses. Donc ça, c'est l'avantage de ce mode d'action-là. En même temps, on peut se dire que c'est quand même relatif, parce qu'on va faire une action, là, par exemple, dans une mine de charbon, on va bloquer une mine de charbon, mais on va la bloquer un jour sur 365 jours de l'année, et on va bloquer une mine de charbon sur les milliers qui existent. Donc, bien sûr que c'est un mode d'action limité. Et c'est vrai de tous les registres d'action non violente. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. En haut à gauche, on a la manifestation. Alors là, contrairement à l'action directe non violente, on va se dire, marcher dans la rue pour le climat, on ne voit pas très bien en quoi ça fait réduire les gaz à effet de serre, hein, contrairement à bloquer une mine de charbon. Mais évidemment, ça sert à autre chose. Ça sert à faire progresser l'opinion publique, ça sert à diffuser des messages. Le programme constructif, il a un effet direct, lui aussi. Développer des énergies renouvelables, développer des alternatives, développer du financement pour la rénovation des bâtiments, etc., etc., la relocalisation de l'alimentation, etc., etc., ça réduit directement des émissions de gaz à effet de serre. Et la non-coopération, j'en ai un peu parlé, là aussi, il y a un effet direct. Mais en fait, quand on les analyse, tous ces registres d'action, ils ont tous une manière d'agir sur le problème différente et des limites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes limites et pas les mêmes avantages. Et que souvent, c'est justement dans une stratégie complète non violente, on a intérêt à mélanger ces registres d'action, parce que c'est là, en fait, que la stratégie non violente devient très puissante. Parce que tout se complète. Les actions directes non violentes, en général, vont désigner un problème. Et si on ne fait que ça, on va nous dire « oui, c'est bien, vous critiquez, mais vous n'avez rien à proposer ». Alors c'est pour ça que c'est important de parler des alternatives. Mais c'est pareil, si on parle que des alternatives, il nous manque quelque chose. Parce que si on ne fait que développer les alternatives, mais sans empêcher les projets climaticides qui mettent le feu à la planète, ça ne va pas fonctionner à la fin. Donc on a besoin de ces deux jambes, de la résistance et des alternatives. De la même manière qu'on a besoin des formats de masse, parce qu'on a besoin d'inscrire cette lutte le plus largement possible dans l'opinion publique et d'inviter la population à participer. Sinon, on est dans des actions à des périmètres trop réduits. Donc, tout ça doit se compléter. Alors, en quoi cette stratégie peut être considérée comme efficace pour relever le défi climatique? Je propose d'abord de préciser l'objectif, parce que la question de l'efficacité, elle est forcément relative. Quelque chose est efficace ou pas par rapport à un objectif, pas dans l'absolu. En l'occurrence, par rapport au défi climatique, l'objectif, à mon avis, hein, est tel qu'on se le fixe dans les mouvements dans lesquels je milite, je pense que c'est pareil pour vous, c'est un changement de système, c'est un changement écologique radical, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il doit se faire de manière démocratique et il doit se faire avec un impératif de justice sociale. Et c'est quand on se fixe cet objectif-là que la nature de l'objectif éclaire les choix stratégiques qu'on fait. Donc, par rapport à cet objectif-là, on se rend compte que ça nécessite l'implication directe d'une grande partie de la population. Évidemment, si vous voulez que le changement radical se fasse de manière démocratique, nécessairement, c'est avec l'implication des gens. Et si vous voulez que le changement radical se fasse avec un impératif de justice sociale, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de le faire avec les gens. La manière dont j'aime bien le dire, c'est que si on ne change pas les choses avec les gens, on risque de changer les choses contre les gens. Donc, la perspective stratégique dans laquelle on est, c'est celle de la construction d'un mouvement citoyen de masse ou d'une majorité politique populaire. En tout cas, c'est dans cette théorie de changement que je me situe. Et c'est dans cette perspective-là qu'on peut percevoir l'efficacité de la stratégie non violente. Je crois que je vais donner trois exemples. D'abord, cette diversité des formes d'action non violente, elle est très importante dans la perspective d'un mouvement de masse parce qu'elle permet de déclencher un engagement et d'impliquer des publics très différents. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont être prêtes à faire des actions de désobéissance civile, des actions de blocage qui nous exposent à des risques physiques ou juridiques, et ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont participer à une marche pour le climat en famille, par exemple. De la même manière que boycotter un produit, c'est pareil, ça ne repose pas sur les mêmes capacités des participants. Et les alternatives, c'est encore autre chose. Donc, une bonne stratégie non violente de masse essaie de proposer une place à chacune et à chacun. Et on a la capacité de le faire, justement, ce qui est intéressant dans la stratégie non violente, c'est que l'éventail des formes d'action est très, très large, sans que ces formes d'action entrent en contradiction les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est notamment grâce justement au dénominateur commun de la violence. C'est-à-dire qu'en fait, avec la stratégie non violente, on cherche à affronter l'adversaire ailleurs que sur son propre terrain, c'est-à-dire pas affronter l'adversaire là où il est le plus fort. Et en l'occurrence, justement, quand on choisit l'action violente, on est tout de suite confronté à ce problème que l'adversaire a beaucoup plus de moyens de violence que nous. Donc, quelque part, on ne choisit pas les bons outils. C'est comme si vous devez affronter Mike Tyson et que vous avez le choix. Il ne faut pas choisir la boxe. Vous choisissez les fléchettes ou la pétanque ou quelque chose où vous avez plus de chances de gagner que la boxe. Ben, c'est pareil dans l'action politique. Et enfin, dans la stratégie non violente, ce qui est très important, c'est la cohérence entre la fin et les moyens. La manière dont on mène une lutte construit le résultat de cette lutte. En l'occurrence, si vous menez une stratégie violente, vous n'allez pas développer la même culture, les mêmes liens entre les personnes que si vous développez une stratégie non violente. Dans un mouvement non violent, vous développez l'inclusivité, vous développez les valeurs de tolérance et de démocratie, vous cultivez le respect des différences. Et donc, ça, c'est important parce que justement, ça fait partie de notre objectif, de notre horizon. Pour construire une société tolérante, inclusive, pacifique, évidemment, si vous utilisez des moyens violents et que ce que vous apprenez en cours de la lutte, c'est à conduire des pick-up et à manier des kalachnikovs, ça va être compliqué de construire un système démocratique. Alors que si vous menez une lutte non violente, vous devez vous coordonner, vous devez organiser des systèmes de décision à plus grande échelle, vous devez intégrer des gens qui sont très différents, donc vous développez nécessairement une culture démocratique. Et donc, il ne s'agit pas en fait de lutter que contre. Il faut lutter pour et il faut construire quelque chose dans la lutte. C'est là où il y a aussi un énorme avantage à la stratégie non violente. En gros, hein, la violence a une certaine force de destruction, mais pas tellement une force de création. Et nous, on a besoin de construire aussi. Alors, je pense que j'ai déjà été assez long. La partie sur la désobéissance civile, je vais la faire un peu plus courte. J'ai séparé parce que c'est quand même deux sujets différents. Même si, évidemment, pour moi, la désobéissance civile est nécessairement non violente. Mais quand même, ça s'explique différemment. Alors, à commencer par le fait que la désobéissance civile, historiquement, on peut la situer assez facilement. La non-violence, je ne sais pas tellement jusqu'où il faut remonter pour déceler les origines de la non-violence. Alors que la désobéissance civile, on peut le dater. C'est Thoreau, je le prononce à la française, hein, Henri-David Thoreau, c'est le premier à avoir utilisé le terme de désobéissance civile en anglais dans un essai qu'il a publié et qui s'appelait « La désobéissance civile » en 1849, et qu'il a publié après avoir passé une nuit en prison parce qu'il avait refusé de payer ses impôts. Au motif que ces impôts finançaient la guerre au Mexique et il était contre la guerre au Mexique. Et Thoreau se faisait cette réflexion et s'agaçait en fait de certains débats dans les milieux dans lesquels il était où beaucoup de gens étaient contre la guerre au Mexique mais payaient quand même leurs impôts et il disait bah, oui mais vous n'allez pas faire la guerre mais l'impôt que vous payez envoie quelqu'un d'autre à votre place. Donc finalement c'est un peu la même chose. Et si on veut vraiment être cohérent et que vous êtes contre la guerre, il ne faut pas payer les impôts. Et donc, il n'avait pas payé son impôt, mais il en avait fait un acte politique. Il le revendiquait, il l'assumait. Il donnait un sens politique à son geste. Et d'ailleurs, ce qui lui fait dire cette phrase, je pense qu'il est très éclairante sur l'esprit de la désobéissance civile, « Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l'homme juste est aussi en prison. » Donc là, par cette action-là, il pose vraiment les bases philosophique et pratique de la désobéissance civile. Ensuite, Gandhi, quelques décennies plus tard, je pense peut être considéré comme la personne qui utilise l'action non violente et la désobéissance civile comme mode d'action politique à grande ampleur de manière moderne. Ce dont on parle quand on parle d'action non violente aujourd'hui et de désobéissance civile aujourd'hui, ça vient de Gandhi. Alors, il s'est inspiré de Thoreau, il s'est inspiré de Tolstoï, il s'est inspiré de l'hindouisme, etc. Mais il a fait de tout ça un mode d'action politique qui est vraiment pour moi fondateur de ce qu'on appelle l'action politique non violente aujourd'hui. Et ça va ouvrir, pour moi, c'est ça qui déclenche ensuite des centaines de luttes non violentes sur les autres continents, sur plein de sujets divers et variés, dont un des plus connus est la lutte contre la ségrégation, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50-60 notamment, avec les grandes figures qu'on connaît de Rosa Parks, de Martin Luther King. Alors j'ai pris cette citation de Martin Luther King: chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Alors les lois injustes, en l'occurrence, évidemment, c'est la ségrégation, là. Et donc, il y a cette action célèbre de Rosa Parks, qui, vous savez, hein, dans les bus, les personnes noires et les personnes blanches, enfin, les personnes de couleur et les personnes blanches, ne devaient pas s'asseoir au même endroit. Et quand le bus était plein, les personnes de couleur devaient se lever pour laisser leur place aux personnes blanches. Et Rosa Parks est connue pour avoir refusé de lever sa place, et elle est restée assise. Du coup, le chauffeur de bus s'est arrêté, la police est venue, ils l'ont arrêté, ils l'ont mise en prison. Et il y a eu plein d'actions de désobéissance civile comme ça qui ont été menées. Alors, est-ce que c'est là que je vous explique oui, c'est là, la désobéissance civile. Donc, la désobéissance civile, ça attire beaucoup l'attention, mais première chose, ça ne doit pas être un mode d'action systématique. Ce n'est pas parce que tout de suite notre cause est légitime qu'il faut faire de la désobéissance civile. J'ai expliqué avant, il y a plein de modes d'action et il faut réfléchir de manière stratégique quels piliers du pouvoir on veut impacter et en fonction de ça, quels sont les modes d'action qu'on utilise. La désobéissance civile en est un. L'idée principale pour comprendre la démarche de la désobéissance civile, c'est que ça ne doit pas être confondu avec le refus du principe de la loi. Et ce n'est pas forcément évident à comprendre, puisque justement, on désobéit à la loi. Mais ce n'est pas parce qu'on est contre le principe de la loi, et au contraire, dans la démarche de la désobéissance civile, on est pour la loi, on est pour le principe de la loi, on est pour qu'il y ait loi, on est pour que les sociétés soient régies par des lois. Par contre, on exige que la loi soit juste, et on considère qu'en l'état, la loi, le système en tout cas général, n'est pas juste. Et donc, la désobéissance civile, ça consiste à s'engager, à agir pour rendre la loi juste. Et donc, c'est une certaine conception du rôle du citoyen, selon lequel le rôle du citoyen et de citoyenne dans une démocratie, ce n'est pas juste d'obéir à la loi aveuglément sans se poser de questions. C'est au contraire d'avoir un rôle actif, d'avoir un rôle responsable, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens doivent être responsables de la justesse de la loi. Et donc, la désobéissance civile semble être un paradoxe. On désobéit à la loi, mais pour la loi, au nom de la loi. Et donc, on désobéit à la loi quand on estime qu'il y a une contradiction entre ce qui est juste et ce qui est légal. C'est-à-dire que dans la désobéissance civile, on fait une distinction entre la légalité et la légitimité. Et là aussi, on est sur une notion subjective. Parce que l'écueil dans lequel ça peut tout de suite nous faire tomber, c'est que bon, bah, si chacun décide ce qui est juste ou pas juste, chacun fait ce qu'il veut. Or, ça ne peut pas être ça, l'horizon politique de la désobéissance civile. Et c'est pour ça que les actions de désobéissance civile sont menées à visage découvert, ou en tout cas, sauf exception, en tout cas, sont revendiquées et assumées. C'est-à-dire qu'on assume notre action et on la mène en tant que citoyen. Il y a une dimension civique nécessairement dans la désobéissance civile, que parfois on appelle d'ailleurs désobéissance civique, et ce qui est un peu plus juste. On assume l'action justement parce qu'on est conscient quelque part d'imposer un peu son point de vue. Et pour que ce ne soit pas une démarche autoritaire, on s'en remet quand même à l'opinion publique. Donc, on s'affiche, on assume l'action parce que notre démarche, c'est de convaincre l'opinion. Et c'est de faire évoluer la loi. C'est de faire évoluer la loi, mais aussi l'opinion. Il faut que ça aille de pair. Et donc, on fait un pari. On désobéit à la loi. On sait qu'on s'expose à des poursuites juridiques, mais on fait le pari de convaincre suffisamment l'opinion publique pour faire évoluer la société et du coup faire évoluer la loi. C'est ça, hein, le sens de la désobéissance civile. Et c'est ça qui fait que c'est une démarche profondément civique, et c'est ça qui en fait une démarche pas du tout contradictoire avec la démocratie. C'est souvent le procès qui nous est fait. Puisque vous désobéissez, c'est que vous êtes des antidémocrates. Mais pas du tout. Justement, quand on désobéit dans cette démarche-là, au contraire, on sert la démocratie. C'est une manière d'être citoyen. Et c'est une manière ambitieuse et active d'être citoyen. Parce qu'un citoyen dans une démocratie, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui doit rester passif, en fait. Alors, c'était flagrant dans ce mouvement pour les droits civiques, parce que aujourd'hui, c'est évident que c'est facile de considérer que cette loi était injuste, de mettre les personnes de couleur. Donc, c'était inscrit dans la loi que les personnes de couleur n'avaient pas les mêmes droits que les personnes blanches. Donc, on avait des cafés où c'était interdit aux noirs. On avait les bus où on ne s'asseyait pas aux mêmes places. On avait les écoles qui étaient réservées aux blancs, etc. Et c'était inscrit dans la loi. Donc là, on a vraiment un cas très clair, très flagrant, de quelque chose qui est légal, et c'est très facile de voir que ce n'est pas légitime. Et donc là, effectivement, la désobéissance civile considérait à désobéir à la loi pour montrer qu'elle était injuste, et de manière à montrer qu'elle était injuste. Aujourd'hui, c'est pareil pour le climat. Là, par exemple, quand on bloque le sommet pétrolier, en fait, aujourd'hui, on a le droit de faire des sommets pétroliers. On a le droit d'organiser des sommets où les plus grandes compagnies pétrolières du monde se réunissent pour voir, tiens, comment on va faire avec le prix du pétrole actuel pour forer toujours plus profond et que ça reste rentable. Ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit d'exploiter les énergies fossiles. C'est autorisé. Sauf que c'est en train de détruire les conditions d'habitabilité de la planète. Donc évidemment, ça pose quand même un sérieux problème, et évidemment, on est en mesure de considérer que ce n'est pas légitime. Donc là, on est dans un cas de figure similaire, où on a quelque chose de légal qui n'est pas légitime, et donc on désobéit à la loi pour montrer que la loi actuellement n'est pas suffisante pour nous protéger, pour préserver nos conditions de vie, les conditions d'habitabilité de nous et des enfants qu'on amène aujourd'hui à la crèche et à l'école. Et alors, soit je m'arrête là, soit je dis quelques mots des décrocheurs de portraits. J'ai parlé très longtemps, 20h30, comme d'habitude, j'ai dépassé.
Non, mais continue, c'est très intéressant.
Je continue. Bon, c'est mon dernier point. Ça, c'est une des dernières campagnes qu'on avait menées en 2019-2020. On a été décrocher les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies au moment où il y avait donc cette fameuse affaire du siècle. Porté par 4 ONG, Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à Tous, qui a attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Et dans cette procédure, l'État devait, donc il y a toute une série d'étapes, et l'État devait, enfin le gouvernement du coup, ou l'État, devait répondre, devait donner un certain nombre d'éléments pour montrer que, non, selon lui, il n'était pas coupable d'inaction climatique. Et leur réponse était très problématique, parce qu'en gros, Emmanuel Macron avait dit, non, en fait, ce qu'on fait, c'est très bien, donc on va pas, y a pas lieu qu'on améliore notre politique climat. Donc on était quand même en plein mouvement social, des marches pour le climat, des jeunes qui faisaient des grèves pour le climat, des gilets jaunes avec cette question de fin du monde, fin du mois, même combat, justice climat, justice sociale, même combat, etc. Enfin, il y avait ça au cœur de l'opinion publique, c'est-à-dire que toute une partie de la population lui demande activement, semaine après semaine, dans plein de mobilisations, les unes après les autres, de rehausser son ambition climatique, et il répond non, en fait, c'est très bien. Donc évidemment, c'était inacceptable. Et la manière dont on a réagi, c'est comme ça. C'est en décrochant ces portraits. Alors, il y avait une symbolique. On décroche le portrait pour laisser un vide qui symbolise le vide de sa politique climat. Et en même temps, on faisait des actions avec les portraits où on allait devant des chantiers de grands projets inutiles, des chantiers de contournement autoroutier, etc., pour symboliquement confronter Emmanuel Macron à la réalité que nous, on a sous nos yeux, sur nos territoires, en disant, on voit bien que non, on n'est pas en train de faire une métamorphose des territoires, on n'est pas en train de faire un changement de système, on n'est pas en train de faire une bifurcation écologique, c'est pas ça qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est à ça que nous appellent les climatologues. Alors, cette action, elle est intéressante parce que c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire que cet objet n'est pas à nous, donc c'est techniquement, éventuellement, vol, mais on va voir que comme il appartient à personne, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas censé, normalement, rentrer dans un bâtiment public et puis prendre un objet qui nous appartient. Mais toutes les actions étaient à visage découvert, toutes les actions étaient filmées par nous-mêmes, photographiées par nous-mêmes, où on avait appelé la presse, etc., donc complètement assumées. Alors, je rappelle quand même, avant de raconter, le prix d'un portrait tel que ce qu'on prenait, c'est 8,70 €. C'est un petit peu augmenté aujourd'hui, je crois que c'est 9,90 € maintenant. C'est comme tout, tout est un petit peu augmenté. Enfin voilà, on est quand même sur un prix assez dérisoire. Je rappelle aussi que le portrait du président de la République, ce n'est pas le symbole de la République, comme on a pu entendre, et qu'en fait, il n'y a aucune obligation légale à avoir le portrait dans une mairie. Ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit à l'enlever. Hein. Mais on a aussi beaucoup dit, enfin, beaucoup de gens ont réagi comme si c'était une attaque de l'institution. Nous, on n'était pas tellement naïfs, hein. On a fait cette action en sachant très bien qu'il y avait un côté transgressif qui allait choquer et interpeller l'opinion. C'était le but aussi, évidemment, hein, pour attirer l'attention et traduire une situation d'anormalité. Alors, il y a une réaction très vive et une répression immédiate. Alors, d'abord, des réactions de 4 ministres qui se sont fendus de communiquer pour condamner les actions. Une directive de la Direction générale de la Gendarmerie nationale qui incitait les gendarmes à recueillir les plaintes, même de ceux qui ne les posaient pas, en fait. Donc, en fait, ils allaient voir les maires et ils leur demandaient s'ils ne voulaient pas plaindre, voire s'ils ne voulaient pas porter plainte, voire ils les incitaient à porter plainte. Il y a un maire qui nous a dit, bah, moi, la manière dont on m'a présenté les choses, j'ai eu l'impression d'être obligé. Et il le faisait à contre-cœur parce qu'il était plutôt sympathisant de nos actions, mais il a cru qu'il était obligé de porter plainte. Bon, là, on est quand même sur un détournement des fonctions. Les gendarmes et policiers ne sont pas censés aller provoquer les plaintes. Hein. La directive demandait de prendre attache avec le bureau de lutte antiterroriste. Donc bon, là, c'est un peu délirant quand même d'en arriver jusque-là. Et effectivement, il y a eu une répression protéiforme et en tout cas disproportionnée. Donc il y a eu 86 perquisitions. Principalement au domicile des personnes. Alors, bon, pour chercher les portraits, et vous imaginez bien que les portraits, on ne les rangeait pas chez les personnes qui les avaient décrochés. 242 personnes auditionnées, dont 128 placées en garde à vue, 84 activistes poursuivis au total. Alors, ce qui ne nous a pas empêché de continuer, en fait, on a continué de décrocher des portraits un peu partout, on en a décroché un peu plus de 150 au total. Et puis, on faisait plein d'actions avec les portraits, dont des actions massives avec 100 portraits en même temps, etc., à différentes occasions politiques. Et ce qui nous a valu 50 procès. Donc là, on fait la tour, ça fait plusieurs années là, qu'on est en tournée dans toute la France pour faire des procès dans toutes les villes de France, vu qu'on est poursuivi un peu partout. Alors ça fait aussi partie de la stratégie de la désobéissance civile. Là, contrairement à ce que des fois on entend dire, on ne désobéit pas pour avoir un procès. Non, on désobéit pour appeler l'opinion publique, les médias, faire passer un message. Par contre, on sait qu'on peut être poursuivi, donc on s'y prépare. Mais ça ne veut pas dire que c'est absolument ce qu'on veut. Et donc, si on est poursuivi en justice, on cherche à faire de ces procès des tribunes médiatiques. Et là, ça a vachement marché sur cette campagne-là, parce qu'on faisait citer des témoins à la barre, et dans pratiquement tous les cas, ça a été accepté par les tribunaux. Et donc, on a fait témoigner des climatologues, des scientifiques, des témoins du dérèglement climatique. Et donc, dans les audiences, on parlait du dérèglement climatique du fond. Ça nous a aidé à médiatiser l'urgence climatique et l'inaction politique. Ça a créé un symbole aussi, parce qu'il y avait tout ça, il y avait l'affaire du siècle, il y avait les marches pour le climat, il y avait les jeunes pour le climat, les portraits renversés comme ça, ça montrait qu'on marchait sur la tête. Ça montrait que la politique de Macron, elle allait à contre-courant de l'histoire. C'est devenu une sorte de mème, en fait. Et c'est important d'avoir des symboles comme ça qui résument, qui incarnent, qui illustrent un message qu'il faut marteler, marteler, marteler. Et d'ailleurs, je pense que ça, et tout ce travail de l'affaire du siècle, des marches pour le climat, etc., a quand même vachement réussi son objectif. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, au tout début de son premier mandat, il a quand même vachement bien géré sa communication, en se présentant comme l'anti-Trump tout de suite, avec son slogan Make Our Planet Great Again, qui répondait à celui de Trump. Il s'est toujours présenté comme le champion de la Terre sur la scène internationale. Enfin, ça fonctionnait très bien. Et puis, il incarne bien le président jeune, progressiste, etc., etc. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait dans sa communication, trompeur, hein, bien sûr, hein, mais qui fonctionnait dans sa communication. Où il pouvait convaincre pas mal de gens qu'il était sincèrement écolo. Or, dans sa politique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il fallait démasquer ça. Il fallait faire un travail de déconstruction de ce message-là pour... alors, pourquoi, justement? C'est ça qui est intéressant. Le gros problème que ça pose quand un président comme Emmanuel Macron fait des discours de greenwashing, c'est que, en fait, ça double le problème. Non seulement il y a le dérèglement climatique, c'est-à-dire il y a le feu à la planète, il y a le feu à la maison. Déjà, c'est difficile de déclencher une mobilisation générale de la société civile, pour plein de raisons. Mais en plus, si le gouvernement fait croire aux gens qu'il est en train d'agir pour le climat, évidemment, c'est rassurant, bah, c'est rassuriste, d'ailleurs, comme on dirait aujourd'hui. Beaucoup de gens vont se dire, bah, c'est très bien, ils font leur boulot. En fait, ce n'est pas à nous de nous en occuper. C'est normal, c'est les politiciens qui s'en occupent. Et du coup, nous, on ne se préoccupe pas de ce problème. Or, on a besoin que la société civile s'auto-saisisse du défi climatique, même avec une classe politique qui serait réellement engagée. Une classe politique au pouvoir qui serait réellement engagée dans une politique climatique ambitieuse, on aurait quand même besoin d'une mobilisation générale de la société civile. Évidemment, sans action politique à la hauteur au niveau institutionnel, on a d'autant plus besoin d'une mobilisation de la société civile. En tout cas, c'est ça l'enjeu. Et donc, évidemment, quand il y a des discours qui rassurent les gens, ça anesthésie la population. Et ça freine et ça l'empêche de se mobiliser. Donc ça, c'est doublement criminel. C'est-à-dire qu'il y a la maison en feu, et non seulement Emmanuel Macron, il n'éteint pas l'incendie, mais il est en train de faire croire aux gens que la situation est sous contrôle. Voilà. Donc, c'est ça, la situation. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt très stratégique à déconstruire le discours de greenwashing d'Emmanuel Macron. Décrocher un portrait dans une mairie, ça ne réduit pas les gaz à effet de serre. Mais ça déconstruit un message qui nous empêche de mobiliser la société civile pour justement faire la bifurcation écologique et réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Donc il y a une cohérence stratégique dans tout ça. Et ces tribunes médiatiques donc, nous ont aidés, pour terminer, aussi à faire bouger les lignes dans le milieu de la justice. On a eu une première relaxe pour état de nécessité, bon, contredite en appel, mais c'était quand même très très étonnant et on a eu plusieurs décisions de juges très étonnants qui nous ont donné raison en disant que l'action était proportionnée justement au nom de l'urgence climatique. C'est-à-dire que dans les tribunaux, maintenant, on entend dire, vu l'urgence climatique, oui, les citoyens doivent en fait sortir du cadre de la loi dans certaines conditions parce qu'il faut réagir. Donc ça, c'est intéressant. Et ça a aidé à faire bouger, ça a connecté en fait des choses. Le monde de la justice, le monde des climatologues, le monde de la société civile, etc. Donc, ça contribue au débat de société. Ça, et bien sûr, parce que ça s'est imbriqué dans un mouvement social plus large avec plein d'autres modes d'action. Donc, voilà un exemple de désobéissance civile pour le climat. Oui. Et alors, j'ai une petite bibliographie, mais je pense que ça, on le fera à la fin si on a le temps. J'ai vraiment parlé très longtemps, donc il y a sûrement des réactions, peut-être des questions.